Jean Vilain vous présente ses nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles ?
Nouvelles vilaines.
Vilaines nouvelles.
Nouvelles vilaines. Nouvelles vilaines. Vilaines nouvelles. Nouvelles vilaines. Histoires. Eh bien, bonjour. Aujourd'hui, ça va être de très vilaines histoires. Histoires de l'histoire, avec un grand H. Car, je vous le répéterai, je crois, à chaque fois, si on oublie le passé, on est amené à recommencer les mêmes erreurs. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps jusqu'en 1961. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça, hein. Et déjà, et comme d'habitude, l'humain était capable de sacrées grosses horreurs. Octobre 1961, à Paris, le massacre des Algériens. 200 Français musulmans d'Algérie, et peut-être beaucoup plus, vont être ce jour-là tués pour avoir manifesté contre le couvre-feu qui leur est imposé. Des milliers vont être internés et torturés aux quatre coins de Paris. Mais, comme l'annonce France Soir trois jours plus tard, Red Charles pourra chanter ce soir. Après le service de désinfection, le Palais des Sports a retrouvé son aspect habituel. Depuis 7 ans, la métropole et les départements français d'Algérie sont le théâtre de violences multiples. Dès le soulèvement de novembre 1954, l'État français, qui refuse l'idée d'indépendance algérienne, mène une violente répression contre les mouvements indépendantistes algériens. En Algérie, les affrontements entre le FLN et l'armée française s'amplifient tout au long de la période. Dès 1957, l'usage de la torture par les militaires français est dénoncé. Le FLN accentue pour sa part les attentats en métropole, visant notamment la police. L'État français, qui compte régler le problème algérien en 3 ans, s'en révèle incapable. En 1958, la 4e République tombe et le général de Gaulle institue une 5e République au pouvoir présidentiel renforcé, censé être plus efficace. L'année 1961 débute par un référendum où les Français votent à 75% pour la paix en Algérie. En février, les partisans de l'Algérie française créent l'organisation de l'armée secrète, l'OAS, qui multiplie provocations et attentats. Octobre 1961. Les autorités françaises interdisent aux seuls Français musulmans d'Algérie de circuler la nuit dans les rues, entre 20h30 et 5h30 du matin. Ils leur interdisent aussi d'utiliser des voitures et de paraître en petits groupes. À cela s'ajoute la fermeture obligatoire, à partir de 19h30, des débits de boissons tenus et fréquentés par les Français musulmans d'Algérie. Au nom de l'urgence de la situation liée aux activités du FLN en métropole notamment, la raison d'État l'emporte donc sur des principes réputés essentiels et rappelés de façon solennelle par l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui est ainsi rédigé. La France assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Ces atteintes portées à la libre circulation ne sont pas nouvelles. Elles furent appliquées sous différentes formes pendant des décennies par trois républiques successives. En ces matières, il se confirme que l'exception et les discriminations furent longtemps les règles, puisque toutes deux ont été au fondement de nombreuses dispositions qui ne visaient que les Arabes des départements français d'Algérie, cependant que la liberté d'aller et venir, fort rarement accordée, fut l'exception. La singularité de cette situation nous éclaire sur la nature de cette dernière liberté, qui, relativement aux indigènes, ne fut jamais conçue comme une véritable prérogative, moins encore comme un droit fondamental, mais plutôt comme une simple tolérance, toujours susceptible d'être restreinte pour des motifs variés. Ainsi fut fait de nouveau après le déclenchement de la guerre, le 1er novembre 1954. Pour venir en métropole, les Français musulmans d'Algérie doivent désormais fournir une autorisation de voyage délivrée par les autorités coloniales et une carte d'identité. 4 ans plus tard, des mesures de transfèrement fondées sur l'ordonnance numéro 58-916 du 7 octobre 1958 relative à l'assignation à résidence permettent au ministre de l'Intérieur de prendre à l'encontre des Français musulmans d'Algérie des arrêtés les astreignant à résider en Algérie. Entre le 11 septembre 1961 et le 7 mars 1962, c'est sur ce fondement que 5 887 personnes furent renvoyées dans leur douar d'origine, selon la formule consacrée, et contraintes d'y rester. Se précisent ainsi les origines des mesures encore plus restrictives décidées par le préfet de police, Maurice Papon, le 5 octobre 1961, avec le soutien de son autorité de tutelle, le ministre de l'Intérieur, Roger Frey, et du gouvernement que dirige alors Michel Debré. Mardi 17 octobre 1961. En début de soirée, environ 30 000 Algériennes et Algériens répondant à l'appel du FLN décident de manifester pacifiquement en banlieue et dans la capitale pour protester contre le couvre-feu raciste qui leur est imposé. Dans la nuit du 17 octobre, les forces de police, agissant sous les ordres de Maurice Papon, se livre à une véritable chasse à l'homme. Plus de 14 000 manifestants sont arrêtés, presque un sur deux, frappés souvent et détenus parfois pendant plusieurs jours. En français, n'en déplaise à ceux qui ont longtemps usé ou utilisent encore un langage directement euphémisé, dès qu'il s'agit d'atténuer les exactions qu'ont commises par l'État français au cours de cette période, de telles actions portent un nom précis, rafle. Par leur ampleur et les moyens matériels et humains mobilisés pour les mener à bien, ces rafles, soigneusement préparées et qui s'étendent sur plusieurs jours, son sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Décidé à tout faire pour interdire une démonstration de force des Algériens à Paris et en banlieue, les autorités politiques et policières ont en effet mis en place un imposant dispositif répressif, réquisitionné plusieurs lieux dont elles savent avoir besoin pour parvenir à leur fin, sans oublier les bus de la RATP dans lesquels les manifestants sont entassés et battus avant d'être rassemblés dans différents centres de détention de la capitale et de la région parisienne. Sans précédent aussi le nombre de personnes assassinées à Paris au cours de ces journées d'octobre, puisque les forces de l'ordre ont commis un véritable massacre. Au vrai, c'est le massacre le plus important de l'après-guerre perpétré à l'encontre de civils, puisque le nombre de victimes s'élève à plusieurs centaines. Aucune, par contre, du côté des forces de l'ordre qui n'ont essuyé même un seul coup de feu, contrairement aux rumeurs forgées et colportées par la police elle-même pour justifier les exécutions sommaires au moment même où elles se déroulent. Des hommes sont tués par balles, d'autres froidement assassinés dans la cour même de la préfecture de police de Paris. Certains furent jetés vivants dans la Seine ou encore frappés à mort après leur arrestation et leur transfert au Palais des Sports ou au Parc des Expositions ou au Stade Coubertin, devenu pour l'occasion autant de lieux de détention. Là, dans des conditions effroyables, des milliers de Français musulmans d'Algérie sont parqués, battus et longtemps laissés sans nourriture et sans soins au milieu des excréments qui s'accumulent. Quoi qu'ils fassent, les policiers se savent couverts par le préfet qui, peu de temps auparavant, leur avait tenu ce langage. Pour un coup reçu, nous emporterons 10. De telles méthodes ne sont pas inédites. Elles relèvent d'une terreur d'État appliquée depuis longtemps en Algérie, réactivée à la suite du déclenchement de la guerre le 1er novembre 1954, puis importée en métropole, où la torture, les arrestations arbitraires, les disparitions forcées et les exécutions sommaires furent courantes. En ces matières, les deux ouvrages de Paulette Péju, Les Harkis à Paris et Ratonnade à Paris, apportent des témoignages circonstanciés et des preuves nombreuses et concordantes. Tous révèlent ceci. Ce qui a été perpétré dans la capitale ressortit à un plan concerté, organisé et mis en œuvre par les plus hautes autorités politiques et policières de l'époque. On découvre ainsi que des hôtels, des cafés et des restaurants de Paris furent transformés en centres plus ou moins clandestins de séquestration et de torture. De plus, dans la note du 5 septembre 1961, adressée au directeur du service de coordination des affaires algériennes et au directeur général de la police municipale de Paris, Maurice Papon donnait les instructions suivantes. Les membres des groupes de choc du FLN, surpris en flagrant crime, devront être abattus sur place par les forces de l'ordre. En ces circonstances, donc, pas de prisonniers. Il s'agit là d'une violation manifeste et grave des règles élémentaires applicables aux ennemis engagés dans un conflit conventionnel. Pour de nombreux responsables politiques et fonctionnaires de police de l'époque, l'Algérien, c'est le raton, le bico, le fel, celui qui peut être arrêté, torturé, exécuté sommairement, sans que cela soit perçu comme un crime, même s'il manifeste pacifiquement. Contrairement à des représentations tenaces et convenues, la guerre d'Algérie n'a pas été menée seulement sur le territoire de cette colonie. Elle s'est aussi déroulée en métropole, où les autorités policières, avec l'aval du pouvoir politique, ont eu recours à des pratiques couramment mises en œuvre en outre-Méditerranée. Cette continuité des pratiques fut parfois servie par la continuité des hommes, ceci permettant de mieux comprendre cela. Avant d'être nommé préfet de police dans la capitale, Maurice Papon avait été, à partir de mai 1956, inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire à Constantine. Sa tâche, appliquer la politique des pouvoirs spéciaux. Lorsqu'il revint en France, 2 ans plus tard, pour exercer les responsabilités que l'on sait et combattre le FLN dans la région parisienne, il s'appuie sur des hommes qui, rompus à la guerre contre-révolutionnaire, ont été ses collaborateurs en Algérie. Ce contexte et quelques éléments permettent de comprendre que les massacres d'octobre 1961 ne sont pas une bavure imputable à une minorité de policiers dont les débordements seraient uniquement liés aux circonstances et aux passions singulières de l'époque. À raisonner de la sorte, on occulte ceci. Le régime imposé aux Français musulmans d'Algérie, présents en métropole, n'est pas celui de la République, mais celui d'un État en guerre et de police qui n'est plus assujetti à aucune autre règle que celle de la terreur mise en œuvre pour réduire ceux qui sont identifiés comme des rebelles et des terroristes. Plusieurs centaines de victimes, donc quelques protestations indignées du Parti communiste notamment, mais aucune initiative d'ampleur du côté des grandes organisations politiques, du mouvement ouvrier, comme on dit. Alors que la manifestation du 13 février 1962, organisée à l'occasion de l'enterrement des 8 militants communistes tombés sous les coups des policiers au métro Charonne 5 jours auparavant, sera l'une des plus importantes de l'après-guerre. La raison et le mensonge d'État, le cynisme de ses serviteurs, les lâchetés et les intérêts partisans ont ainsi formé une coalition hétéroclite, mais d'une extraordinaire puissance qui a précipité, pour de longues années, les massacres d'octobre 1961 dans le néant. Charonne, en effet, est dans les mémoires. Parce que cette manifestation est dans les livres et dans les récits des militants de gauche et de extrême gauche. Ils connaissent cet événement grâce auquel ils peuvent inscrire leurs engagements passés dans une histoire réputée glorieuse. Mais tel n'est pas le cas du 17 octobre 1961. C'est grâce aux nombreux travaux réalisés depuis plusieurs années par des chercheurs et des historiens français et étrangers que ces massacres sont aujourd'hui connus. Ils doivent être maintenant reconnus par les plus hautes autorités de ce pays et par les femmes et les hommes qui affirment incarner une possible alternance. Responsables et coupables, l'État doit en effet réparation à celles et à ceux qui ont été assassinés et à leurs descendants. Cela passe entre autres par la reconnaissance qu'un crime contre l'humanité a bien été perpétué en ces journées d'octobre 1961. Toujours en 1961, c'est la guerre au Vietnam et des avions américains vont répandre sur le Vietnam près de 80 millions de litres du poison le plus violent qu'on le connaisse, l'agent orange. C'est un aspect de la guerre du Vietnam qui reste méconnu. Elle fut la guerre chimique la plus atroce de toute l'histoire de l'humanité. Et plus de 50 ans plus tard, ce poison, présent dans les sols, dans l'eau, les aliments et jusque dans le lait maternel, continue de briser la vie de milliers d'enfants dans l'indifférence des dirigeants américains qui renient leurs crimes. Du point de vue des armements conventionnels utilisés, la guerre du Vietnam est un des conflits majeurs du XXe siècle. Il opposa les États-Unis d'Amérique au Viet Minh communiste nord-vietnamien. Lui-même était soutenu par l'Union soviétique et la Chine. Ce conflit devint une exportation de la guerre entre les deux superpuissances de la planète. Les États-Unis disent vouloir stopper le communisme en Asie, tandis que l'URSS encourageait son essor. Il fut déversé sur le Vietnam 3,5 fois le tonnage de bombes larguées durant toute la Seconde Guerre mondiale. Bombes de nouvelle génération, à explosion, bombes incendiaires, bombes à effet de souffle, bombes à dépression, bombes à fragmentation. À titre d'exemple, à Kyushu, terre d'acier en vietnamien, il fut déversé plus de 10 tonnes de bombes par habitant. Près d'un million de tonnes de ces engins n'ont pas encore explosé. Ils ont déjà fait 150 000 victimes, surtout des enfants, puisque durant de longues années, près de la moitié de la population avait moins de 15 ans. En cette année 1961, les États-Unis s'enlisent. Les combattants vietnamiens, invisibles et insaisissables, se déplacent sous le couvert végétal de la forêt tropicale. Les archives de l'armée américaine avouent 36 millions de sorties d'hélicoptères pour débusquer l'ennemi et le détruire, sans résultat probant. L'Amérique est pressée, sa jeunesse et celle du monde entier commencent à se soulever contre cette guerre. Le 30 octobre 1961, le président Kennedy donne son feu vert à cette gigantesque guerre chimique. Elle est d'abord appelée Opération Train Dust, traînée de poussière en américain, puis ensuite Opération Hadès, le dieu des morts et des enfers chez les Grecs. elle sera enfin rebaptisée d'un nom moins révélateur, Opération Ranch Hand, ouvrier agricole. L'opération Ranch Hand visait à raser la forêt tropicale et à empoisonner les récoltes pour couper les combattants vietnamiens d'approvisionnement et de sources de renseignements de la part des populations. Ce titanesque écocide, qui fit également disparaître à jamais de nombreuses espèces animales, tant végétales d'ailleurs qu'animales, est à la base de terribles problèmes de santé pour la population actuelle. Entre 1961 et 1971, c'est au strict minimum 84 millions de litres de défoliants qui ont été pulvérisés. 10% de cet épandage fut réalisé à la main par véhicule terrestre ou par bateau. 90% de la pulvérisation se fit par voie aérienne. Parmi ces défoliants, l'agent bleu. Il contenait du cyanure et était particulièrement efficace pour empoisonner les rizières. Les agents verts, pourpres, roses et blancs furent utilisés en fonction des essences à détruire. Et enfin, l'agent orange, le plus nocif de tous. Ils furent appelés ainsi à cause des bandes de couleurs sur les fûts qui les contenaient. L'agent orange représente à lui seul 62% du volume des défoliants pulvérisés au Vietnam. L'extrême nocivité de l'agent orange provient du fait qu'il contient de la dioxine, du tétrachlorodibenzoparadioxine. Elle est le plus puissant des poisons connus, 1 million de fois plus toxique que le plus nocif poison naturel et aussi le plus durable. En 2002, une étude de l'Université Columbia de New York a montré que 80 grammes de dioxine déversée dans une adduction d'eau d'une grande ville suffirait à tuer 8 millions de ses habitants. Sur cette base, il a été déversé sur le Vietnam 40 milliards de fois le potentiel mortel pour un être humain. D'une grande stabilité, la dioxine est maintenant présente dans les sols, dans les eaux, dans les boues, dans les sédiments de l'ancien Vietnam du Sud. Liposoluble, elle passe ainsi dans la chaîne alimentaire, où on la retrouve en grande quantité dans les graisses animales, les viandes, les œufs, les poissons, le lait. Les victimes de l'agent orange souffrent, selon les cas, de troubles hépatiques, de troubles cardiovasculaires, de troubles neurologiques ou psychiatriques, et aussi de pathologies de l'appareil urogénital, et également de toute forme de cancer. La liste est trop longue pour être ici dressée de manière exhaustive. Le 10 août 2010, le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que son pays comptait 4 millions de personnes contaminées par l'agent orange. La troisième génération est touchée. Ce sont les petits-fils et les petites-filles des combattants ou des civils exposés, des gens sains de corps et d'esprit qui engendrent encore des bébés monstres, nés viables ou pas. Le crime est donc actuel, et ce n'est pas une vue de l'esprit, ni une formule, que de dire que la guerre du Vietnam continue. Il faut savoir que les Vietnamiens pratiquent le culte des ancêtres de manière fervente. Ils souhaitent une progéniture capable de perpétuer ce culte. Si ce n'est pas le cas, une grande culpabilité s'installe envers les aïeux. Alors on comprend pourquoi des familles qui avaient un, deux, trois enfants atteints de handicap lourd en ont conçu un quatrième, un cinquième, un sixième et parfois davantage. Il faut comprendre l'épouvantable torture mentale des parents qui voient naître leur enfant avec deux têtes, ou bien avec deux visages sur la même tête, ou encore sans les bras ni les jambes, quand ce n'est pas avec des organes externalisés. Et alors, lorsque la dioxine ne parvient pas à traverser le placenta de la future mère et que l'enfant naît sain, la maman l'empoisonne en l'allaitant, car le lait maternel est la principale voie de déstockage de la dioxine. En avril 2003, le rapport Stellman, une étude incontestée sur l'utilisation des défoliants au Vietnam, estime jusqu'à 4,8 millions le nombre de personnes ayant subi des épandages. Mais ce chiffre ne tient pas compte des victimes empoisonnées ultérieurement par la chaîne alimentaire durant 50 ans, ni de la progéniture des trois générations suivantes. Les victimes passées et présentes sont des millions. Combien seront-elles dans le futur ? L'utilisation par l'armée américaine de cette arme de destruction massive, chimique et pérenne, demande réparation. Il faut des preuves scientifiques, répondent les Américains, qui ont pourtant reconnu de nombreuses pathologies liées à l'agent orange et dédommagé leurs vétérans de la guerre du Vietnam, ainsi que les enfants de ceux-ci. La liste des maladies s'allonge chaque année. Les victimes vietnamiennes, celles du Laos et du Cambodge, souffrent des mêmes maux que les vétérans américains de la guerre du Vietnam. Il faut savoir que 4,2 millions de GI ont servi pendant le conflit et que ceux de Corée du Sud, 300 000 soldats, de Nouvelle-Zélande et d'Australie ont combattu à leur côté. Elles présentent les mêmes pathologies que les victimes qui vivent près des zones de stockage aux Philippines, sans compter certaines personnes ayant travaillé ou résidant dans des espaces ayant servi aux essais de l'agent orange au Canada. Le 24 juin 1965, une note émise par le laboratoire de recherche de biochimie de Dow Chemical alerte sur l'exceptionnelle toxicité de la dioxine. Les fabricants se réunissent et décident de se taire pour ne pas remettre en cause d'immenses profits. Parmi les 37 sociétés qui ont fabriqué le poison, les principales sont Dow Chemical et Monsanto. Et puis Uniroyal, Diamond, Thomson, Hercule, entre autres. Le 31 janvier 2004, quelques jours avant que n'arrivent à échéance les 10 ans de levée de l'embargo, ce qui aurait interdit tout recours selon la loi états-unienne, l'association des victimes de l'agent orange, dioxine, et 5 victimes à titre personnel déposent une plainte au tribunal de première instance de New York. Au mois de septembre 2004, 22 autres victimes viennent s'ajouter à une liste qui risque d'être sans fin. Le 9 mars 2005, le Comité international de soutien aux victimes vietnamiennes de l'agent Orange est créé à Paris. Le lendemain, un juge, celui-là même qui défendit les vétérans américains victimes de l'agent Orange et obtint réparation pour eux, rejette la plainte des victimes vietnamiennes. Ce juge statue que rien dans les textes de la loi internationale n'interdit l'utilisation des herbicides. Or, le 18 octobre 1907, les États-Unis ont signé la Convention de La Haye, dont l'article 23 interdit l'utilisation du poison ou des armes empoisonnées en temps de guerre. Désormais, la question n'est pas de savoir si l'agent orange répandu sur le Vietnam est un poison ou un herbicide, mais de savoir si ce défoliant contient ou non du poison. Or, la communauté internationale scientifique, universellement unanime, répond oui. En septembre 2005, les victimes vietnamiennes font appel. En janvier 2006, la défense des 37 compagnies incriminées remet ses arguments devant la justice. Elle prétexte que l'utilisation de l'agent orange avait pour but de protéger les soldats américains alors qu'ils en ont eux-mêmes été victimes. Elle ajoute que ces compagnies ne pouvaient pas se soustraire à une commande de leur gouvernement, comme si chacune d'entre elles avait été obligée de fournir les armes d'un crime contre l'humanité. La défense cherche ainsi à déplacer la responsabilité sur les dirigeants politiques de l'époque, ces derniers ayant disparu ou étant hors de portée juridique. Le 27 mars 2007, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est interpellé sur la reconnaissance des victimes de l'agent orange. Le 22 février 2008, la Cour d'appel fédérale du Second Circuit rejette la plainte vietnamienne. Le 6 octobre 2008, les victimes vietnamiennes font appel auprès de la Cour suprême des États-Unis d'Amérique et le 27 février 2009, la plus haute juridiction de ce pays refuse d'examiner cet appel. L'impunité qui profite aux responsables tue définitivement tout espoir de réparation, tout comme pour les prochains plaignants, et ouvre toute grande la voie au futur grand massacre de ce jeune siècle qui commence. Le 15 et 16 mai 2009, un tribunal d'opinion s'est tenu à Paris. Si le verdict d'un tel tribunal ne peut prendre effet, des sommités juridiques venues de tous les continents condamnèrent le gouvernement des États-Unis et les multinationales responsables de ce crime. Enfin, 2011, l'année 2011, était le 50e anniversaire du premier épandage d'agents orange au Vietnam. Hélas, ce crime n'appartient pas au passé, puisque les victimes continuent à naître et à mourir. La première justice à rendre aux victimes de l'agent orange est la solidarité internationale. Il faut les moyens financiers de faire un état des lieux afin de répertorier les victimes dans les campagnes. Construire aussi des villages de la paix, établissements qui accueillent les victimes de l'agent orange au Vietnam. Il faut les équiper, accompagner la formation de personnel médical spécialisé. Car actuellement, on estime à 300 000 les enfants victimes de l'agent orange. Et si un village de la paix accueille 100 victimes, ce qui est énorme car les handicaps lourds demandent de nombreux personnels présents jour et nuit, il faudrait donc au minimum 3 000 villages de la paix tout de suite pour les seuls enfants. Il y a encore peu de temps, le Vietnam comptait seulement 2 établissements adaptés. Le village de l'amitié à Wan Kang, à côté d'Hanoï, et le village de la paix de l'hôpital Tu Du à Ho Chi Minh-ville. Le chemin pour la reconnaissance des crimes commis avec l'agent orange et vers la réparation par les soins aux populations risque d'être encore très long.
Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Les dégâts, les excès, ils vont vous les faire payer. Les cendres qui resteront, c'est pas eux qui les ramasseront, mais les esclaves et les cons qui n'auront pas su dire non. Nous on ne veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Pimpronel et Nicolas, vous nous endormez comme ça. Le marchand de sable est passé, nous on garde un œil éveillé. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides. Faut pas bouger une oreille, toutes sortes de chiens nous surveillent. Pas un geste, une esquisse, sinon on tourne la vis. Nous on n'a rien à gagner, mais on ne peut plus perdre, puisque c'est déjà fait. Avec ta peau et tes os, on t'a parlé de paradis, on t'a menti, tout est faux. Oh mon ami, oh mon frère, tout sonneur perdu pour la guerre. Tu vas voir tout l'amour qui traîne au fond des discours. Dis t'en veux, des papiers, dis tu l'as vu mon palais. T'auras rien, c'est ainsi, c'est pas fait pour les perdants, le paradis. Il y a la chair à canon, il y a la chair à spéculation, il y a la chair à publicité, enfin, il y a tout ce que vous aimez, vous et moi, on le sait. Le spectacle est terminé, pourtant c'était presque idéal, c'était loin du féodal. Oh maintenant, c'est foutu, ça fait joli dans ton fort intérieur. C'est gênant de rejoindre comme ça la cohorte des perdants. Faut pas se faire d'illusions, mais c'est mieux debout pour l'action. Et pour nos âmes, c'est égal, Dieu n'est pas dans la bataille. Oh messieurs les décideurs, de toutes parts, de tous côtés, sachez que profond dans nos cœurs, on n'arrête pas le progrès. Sous l'iris, sous la peau, sous les ongles et dans les taux, on pourra toujours refuser de devenir les premiers ou les derniers. On ne sera jamais des gagnants ni des perdants.